Bonjour, dernière journée de la semaine, vendredi 2 août. Bienvenue à l'émission Aime l'été. Devant nous, une heure qui sera fort intéressante autour de deux invités qui ont un point commun et qui impressionnent par leur parcours de vie. Celui avec qui nous passerons l'heure à sauver des vies par sa force intérieure et sa détermination et continue d'en sauver d'autres autrement. Notre invité, quant à lui, rêve de... sauver le monde en apportant un peu de bonheur sur la planète. Je vous invite à nous suivre jusqu'à 13 heures. Il y aura assurément des discussions passionnante et enrichissante, tout cela à Aime l'été. Et au menu aujourd'hui, on accueille un clown humanitaire. Nous allons accueillir Guillaume Vermette qui s'est donné un objectif bien particulier dans la vie, celui d'apporter des sourires et un peu de réconfort aussi bien dans les camps de réfugiés, les hôpitaux et les orphelinats. Et comme à tous les vendredis, nous passons l'heure avec une personnalité connue, quelqu'un d'inspirant qui a beaucoup à dire et à partager. Je vous propose une belle rencontre avec Robert Pichet. Et oui, le commandant Pichet en personne qui va partager aussi avec nous le meilleur et le pire. Il sera en effet question d'exploits et de démons intérieurs, mais aussi d'engagement. Voici votre émission Aime l'été. Et les vacances qui s'achèvent pour certains et qui commencent pour d'autres. Profitez bien de cette saison estivale. Bonjour Nathalie. Oui, c'est les vacances de Mathieu Tessier. Oui, notre réalisateur.
Mathieu est déjà parti.
Non, pas tout de suite. Alors Nathalie, oui. On va recevoir tout de suite quelqu'un que tu connais bien parce que, il faut le dire, vous avez travaillé ensemble tout récemment. Alors oui, c'est le commandant Pichet. Robert Pichet, bonjour.
Bonjour mesdames.
Bonjour. Alors Robert Pichet, je vais, bien sûr, comme Nathalie te connaît, il faut bien que je te tutoie parce que là, ça va faire dur un peu. Là, si moi, je vous vois puis elle te tutoie. Mais chose certaine, oui, je dis commandant Pichet parce que c'est sûr que si je dis vitement comme ça Robert Pichet, il y a des gens qui ne penseront pas au commandant Pichet, mais si je dis commandant, là, tout de suite, on sait c'est qui, on sait qui tu es, et évidemment, on t'a mis, bien sûr, on t'a élevé comme un héros national. On se souviendra de ce grand moment où, enfin, pas pour toi, mais pour les, du moins, ceux que t'as sauvés, là, de cet accident d'avion qui était annoncé, là, parce qu'il n'y avait plus de carburant, évidemment, et tu as fait un vol plané de près de 20 minutes. Tu as réussi à poser l'avion aux Açores. Alors ça, c'est un événement qui a eu lieu il y a quand même un certain temps.
Mais fait alors, bien de mentionner parce que les
ça
gens,
fait 23 ans,
quand
je
on
pense.
Dit Robert Pichet, des fois, ils ne savent pas c'est qui, mais le commandant, ils savent
c'est voilà, qui. C'est pour ça que je dis commandant
Pichet. Commandant, parce que c'est un titre professionnel qui n'a rien
ça,
à voir.
C'est ça, je sais que tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça.
Mais tu ne restes pas commandant toute ta vie?
Ce n'est pas un titre professionnel. C'est juste une marque... pour savoir qui gagne le plus gros salaire dans le cockpit.
Alors oui, parce qu'à l'âge de 65 ans, il a fallu que tu prennes ta retraite. Évidemment, ça, c'est pour ceux qui font qui travaillent sur des pilotes de ligne, là, avec des gros porteurs, voilà. Ouais. Alors, vous n'avez pas le choix. Évidemment, est-ce que tu aurais continué à voler, blague à part?
Dans l'état que j'étais rendu au top de ma job. Moi, le prochain move, ça aurait été à navette spatiale. Ça fait que j'étais rendu pas mal au top.
Donc, tu avais relevé tous les défis.
Des conditions de travail, des bons salaires. Ouais. J'aurais pu continuer, j'avais la santé, la forme physique. Mais je suis content qu'il m'aille arrêter à 65. Je suis obligé de 65. Depuis que j'ai pris ma retraite, je réalise que ça va vite après.
Ouais. Mais tu as commencé bien jeune, il faut le dire.
J'ai commencé comme la majorité des gens, autour de 17-18 ans, là. Ouais. C'est rare qu'un gars va commencer à 30 ans pour devenir commandant de gros porteur parce que faut que tu fasses tes heures de vol pour faut que tu prennes ton expérience dans des petites compagnies, puis c'est des compagnies qui ne payent pas, fait que tu manges tes bas pendant plusieurs années avant d'arriver en ligne nationale, si on peut dire.
Ouais. Alors ça veut dire que tu as quand même complété presque un tour du monde ou si c'est déjà fait?
Oui, j'ai fait le tour du monde. Oui, mon ambition quand j'étais un TQ, moi, c'était de faire le tour du monde en tant que commandant de bord d'un gros porteur.
Ouais.
Je l'ai fait en 2010. La portion qui me manquait, c'était entre Jakarta et Hawaï. Puis ça a donné que je l'ai fait.
Puis tu l'as fait.
Fait que j'ai fait la boucle, une fois le tour du monde en tant que commandant de bord.
Mais quand tu es rendu dans la soixantaine, ces longs vols d'une vingtaine d'heures, est-ce que ça t'épuisait? Tu voulais en faire moins, j'imagine?
Non, c'est pas que ça t'épuise, c'est qu'il y a une discipline de vie qui vient avec. puis que peu importe ce que tu fais, tu t'en sortiras jamais. La fatigue est là. Moi, j'arrivais chez nous, des fois, j'avais 40 heures de décalage horaire dans le corps. J'étais 3 jours en congé, puis je repartais pour un autre 40 heures. Fait que sur 5 mois l'été, on perdait un mois de sommeil. Il faut que tu sois en forme physique pour arriver là, mais le problème, c'est que vu que tu n'as pas d'été, parce que c'est là qu'on travaille le plus, puis c'est là qu'il y a plus de décalage horaire parce qu'on fait pratiquement pas de sud, on fait quasiment juste l'Europe. Fait que tu veux profiter de l'été comme tout le monde, fait que tu es sur une belle terrasse à quelque part, bien, tu fais pas attention à ce que tu manges, tu fais pas attention à ce que tu bois, puis des fois, tu es 3-4 jours parti, bien, tu n'as pas le temps de t'entraîner. Mm-hmm. Fait que tout ça fait que tu arrives avec une fatigue psychologique puis physique à l'automne.
T'sais. OK. Mais quand tu dis qu'il faut être en forme, toi, as-tu toujours suivi une forme d'entraînement?
J'ai toujours été un autodidacte là-dedans. Je me suis toujours entraîné. Depuis que je suis jeune, que je me souviens, j'ai toujours fait du sport, puis je me suis toujours entraîné tout seul. J'étais un gars qui a une grosse détermination personnelle.
Okay.
Une grosse discipline personnelle. Ça ne paraît pas quand tu regardes ma vie. mais bien souvent, du monde que je montrais piloter, puis je leur donnais mes trucs, puis je disais, tu penses à ça, toi? Il était comme surpris de voir tout ce que je pensais en pilotant un avion ou en faisant un sport quelconque, tu sais. C'est une détermination spéciale, puis je n'ai pas vraiment de mérite. Ma mère, moi, elle est très, très déterminée. C'est une femme qui vient d'un petit village qui s'appelle Newport, en Gaspésie. Mm-hmm. Puis en 1933, à l'âge de 17 ans, elle a dit à son père, je m'en vais travailler à Montréal.
Hey, elle avait beaucoup de détermination.
Tout seul, de fille, à 17 ans.
À l'époque, c'est surprenant.
En 1933, tout de suite après la crise, avec pas d'argent dans ses poches, mon grand-père, il a acheté un billet de train, des gros chars qu'il appelait dans le temps. Puis il l'envoyait à Montréal, puis elle s'est débrouillée, ben jamais revenue chez elle.
Moi, je peux le dire, t'as son front de bœuf.
C'est ça, exactement. Tu sais, le monde, on dit tout le temps que les garçons ressemblent au père.
Tiens, ta mère.
Moi, je ressemblais plus à ma mère.
Front de
bœuf
de ta mère,
oui. Aïe, aïe, aïe. Tout à fait. Alors, c'est sûr que, tu sais, Nathalie, je ne sais pas si tu le sais, mais notre cher commandant Piché, lui, a commencé à être pilote, peut-être parce que c'était, à la fois, il y avait certainement un intérêt personnel, mais aussi, ça faisait bien auprès des filles, c'était une belle façon de plaire aux filles.
Ça, c'est venu après.
Ça, c'est venu après. OK.
Parce que moi, quand j'étais jeune, j'habitais à côté de l'aéroport de Mont-Joli. Puis ma mère me disait tout le temps, plus tard, quand je suis devenu pilote, elle dit, c'est vrai, quand tu étais jeune, puis tu étais en train de t'amuser avec ta gang de copains dehors, puis un avion arrivait, puis atterrissait, puis décollait. Tu étais le seul qui arrêtait, puis regardait l'avion. Ça, je me souviens de ça. Puis je me demandais, comment ils font pour piloter un avion? Il y a deux types en avant là, qui pilotent. Comment ils font? Puis ça, c'est là que l'intérêt est venu. Mais après ça, quand j'ai pogné la quinzaine, c'est sûr que... Là, j'ai commencé à courir les filles, puis j'ai vu que le métier allait bien.
Le métier allait bien avec ça. Le métier et l'habit.
L'habit,
aussi,
l'uniforme.
Le costume.
Parce que l'uniforme est encore très prisé chez une certaine genre féminine.
Oui, c'est encore ça.
Moi, je suis rendu à ma 5e femme. Je ne sais pas si j'ai poussé trop fort ces 4 galons, mais disons que ça a fonctionné.
Non, c'est très drôle. Donc, tu avais ce côté aventurier, petit côté aussi en même temps rebelle, à savoir que tu savais ce que tu voulais dans la vie et même tes études aussi. Ça a été quand même quelque chose. Tes profs, évidemment, tu étais un surdoué à quelque part.
Mais tu le sais pas, ça, quand tu le lis.
Ouais.
Comme là, vous dites, j'étais un aventurier, j'étais un téméraire. Tu le sais pas. Tu sais, j'avais 12-13 ans, t'es pas assis au bout de ton lit. Moi, je suis un aventurier, m'en faire ça. Tu sais, c'est les choses de la vie qui m'ont amené à ça.
C'est
puis j'ai trouvé que quand que j'avais un intérêt à cause de l'avion, à cause que j'habitais près de l'aéroport, j'ai dit, tiens, m'a essayé ça. Tu sais, puis c'est, tout est venu par le fait même, puis... J'ai fait la grosse école qui s'appelle le Cégep de Chicoutimi.
Exact.
Puis j'ai gradué de là, puis envers et contre tous, parce que j'ai manqué de me faire mettre dehors 2 fois. Mais pas à cause de mon inaptitude au vol.
T'aimais peut-être plus faire la fête.
C'est
que
ça, j'aimais plus les femmes que l'avion, tu sais, c'est ça.
Oui, mais finalement, comme tu étais surdoué, t'arrivais.
C'est parce que l'avion, non, c'est parce que les.
Tu y arrivais
quand même. Mais je savais pas, je pensais que tout le monde était comme moi. J'étais un peu naïf de ce côté-là. Oui,
oui.
Puis je pensais que tout le monde qui s'est inscrit dans cette option-là de pilotage, ils sont comme moi, ils ont tous envie de faire des pilotes. Puis moi, c'était pas une option de dire, je veux-tu être correct ou pas correct. De là, ma détermination, j'entreprenais quelque chose, puis je le finissais, puis ça allait comme ça. Mais je me suis jamais posé la question, est-ce que j'ai le talent ou pas?
C'est ça.
Tu sais, je vois les jeunes aujourd'hui, mes enfants, puis ça, ils se posent des questions, serais-tu bon dans tel domaine? Moi, ça... Peut-être parce que c'est un produit des années 70. Hein. Les années 70, tout était possible pour
oui,
la génération 17-25 ans. Là,
aussi,
c'est ça.
Oui. Ben oui. Alors, tu l'as dit, évidemment. Ben oui. Parce qu'il faut le dire, là, il y a quand même une entrevue que tu as accordée à Jean-Marie Lapointe, ici même, à Canal M, qui est fort intéressante. Quand même, vous avez passé au moins une heure ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là, dans cette émission-là. Évidemment, tout ton parcours de vie. Alors, j'invite les gens, bien sûr, à retrouver cette émission-là qui a été diffusée sur nos ondes. C'est facile à trouver. Et puis, ben, ils en apprendront certainement davantage. On va, évidemment, nous aussi en parler. Mais donc, cette détermination, ce côté rebelle, finalement, ce côté... ça t'amène aussi à prendre des risques, hein, inévitablement. Et ben, c'est ça qui va arriver un jour. On a révélé suite... En fait, les révélations concernant le fait que tu as fait de la prison quand tu étais jeune, justement, est-ce que c'est venu après, je pense, hein, quand il y a eu... Des journalistes se sont penchés là-dessus après que tu aies posé ton avion là, aux Açores.
Ouais,
hein?
Ouais, c'est ça.
C'est là que tout est sorti.
Ben, disons que... C'est raccourcir un peu, puis prendre des chemins plus courts, des raccourcis.
Ouais.
Mais ça, encore une fois, ça se passe.
Parce qu'on n'a pas 3 heures.
Oh, ouais, c'est ça. Bon, ouais, je sais bien, mais c'est pour ça. Moi, je pourrais vous en parler pendant 3 heures. C'est ça l'affaire. C'est que ça se passe pas comme ça. C'est le contexte. Dans les années 70, quand il y a eu le premier gros crash pétrolier, les compagnies aériennes ont commencé à mettre tout le monde à pied. Puis je me suis fait mettre à pied par la compagnie pour laquelle je travaillais. Pourtant, j'avais un très bon numéro de seniorité.
Ouais.
Je pensais jamais venir à me toucher. Finalement, je me suis retrouvé sans job. Puis tu ne voyais pas le jour qu'on allait réembaucher ce monde-là parce que ça allait tellement mal au point de vue aviation. Fait que j'ai eu ce stuff-là qui m'était donné. Puis je disais, pourquoi pas? Mais encore là...
D'aller finalement transporter de la drogue.
Chercher de la drogue, oui.
C'est ça. Bon.
Mais encore là, j'avais lu ça dans le Reader Digest à un moment donné. Puis je m'étais dit, bien maudit, j'aimerais ça faire ça une fois dans ma vie.
Oui, par
curiosité. Il faut faire attention à ce qu'on lance dans l'univers.
C'est ça, par curiosité, finalement.
Moi, c'est pas le trip, tu sais.
Oui, je le
sais. Mais je me disais pas aventurier. Moi, j'étais un tripeux. J'étais un produit des années 70. Quand le vent de la liberté est arrivé de la Californie, j'étais en plein dedans. Tu vois?
Ouais.
Que, tout était possible. Tu sais, bébé boomer, tout nous était possible. Hein?
Ouais.
Ça coûtait pas cher vivre. Il y avait des jobs pour tout le monde. C'est pour ça que ce côté-là, je l'ai posé. C'est sûr que ça a l'air du gars aventurier, mais ça n'avait rien à voir. Moi, c'est personnel. C'est ce que je voulais faire personnellement.
Tu n'as jamais craint quoi que ce soit quand tu t'es embarqué là-dedans. Tu n'as pas dit...
Ben oui, mais c'est là que tu vas chercher ton adrénaline.
Ouais.
Le niveau de crainte t'amène une adrénaline pour surpasser la crainte. Mais tu as peur, comme le vol 236, le monde pense que je n'ai pas eu peur. J'ai eu terriblement peur. Puis j'étais le premier à avoir peur de perdre sa vie. Puis quand le petit témoin s'est allumé pour nous dire qu'on avait un problème potentiel... Tout de suite, j'ai été envahi par la peur que j'allais mourir là, tu vois.
Ah oui. Hein?
Ben oui, mais le problème, c'est avoir peur, c'est un sentiment humain tout à fait normal à ressentir dans une certaine circonstance, situation. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu passes par-dessus pour assurer ta survie. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, le héros n'est pas plus brave que la moyenne des gens, il est 5 minutes de plus.
Oui, ça, c'est intéressant.
C'est ça, hein, dans le fond. C'est tu regardes la chose, puis vu que je suis un fataliste, puis je suis un gars qui regarde la situation, puis c'est bon, ben on va y aller par là, puis on va... De toute façon, je suis seul dans l'avion qui peut faire quelque chose.
Ouais,
je me croise les bras, puis je panique, on n'ira pas nulle part.
Alors, on fait ce qu'on peut. T'étais prêt à aller jusqu'au bout de cette aventure-là, en fait, cette mésaventure-là, et puis advienne que pourra, finalement. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu t'es dit au moment où tu étais en prison. Où
ben c'est,
été
non,
confronté.
C'est la même chose que quand je suis rentré en prison.
Ben oui, quand t'es entré en prison.
Je me suis regardé dans mes bras, Là, t'es dans la marde, pas à peu près.
Ça va mal à la choc,
là,
comme on dit.
Allume tes lumières, là, puis essaye de faire ce que t'as à faire pour sortir d'ici, puis sacrant. C'est ce que j'ai fait.
Oui.
Tu sais, t'arrives en prison, t'es un milieu complètement inconnu, puis super hostile, tu vois.
Ah ouais. D'ailleurs, ta vie a été menacée aussi.
Ben oui, t'es menacée, puis t'as l'hostilité physique puis sexuelle qui est présente 24 heures par jour. Mais t'as un paquet de non-dits, de non-écrits. Qu'il faut que tu apprennes par cœur, mais personne ne me montrait à déchiffrer des noms libres, des noms écrits. Mais l'urgence de la situation fait que, ben, tu sais, Dalai Lama de Jeudi.
T'apprends vite.
Oui, c'est ça. Le Dalai Lama de Jeudi, c'est dans l'inconnu que l'homme se réalise. Ben, moi, j'ai fait face à l'inconnu dans ma vie, puis c'est là que je me réalisais le plus, parce que c'est inconnu, puis je cherchais à savoir comment faire pour me sortir de cet inconnu-là.
Et tu t'es pas facilité la vie, c'est-à-dire que tu as fait la prison aux États-Unis.
Ouais. Mais encore là, c'était pas dans mon plan de match, tu vois. C'est sûr, quand j'ai fait ce voyage-là, j'y ai pensé, ça m'a effleuré l'esprit qu'on peut se faire arrêter, mais comment ils vont faire pour trouver un petit avion qui atterrit dans le milieu de la Géorgie? C'est comme trouver un épingle dans une botte de foin. Il va falloir que c'est mauditement chanceux. Puis justement, ils ont été chanceux parce que le gars, il n'était même pas là pour moi, la police. Tu vois? Il était là pour une autre raison, puis il me voit arrêter. J'aurais atterri peut-être une demi-heure plus tard, puis il n'aurait pas été là, puis le vol s'aurait fait normalement, tu vois?
Mm-hmm. Oui, en tout cas. Alors, peut-être que le parcours de vie aurait été différent à ce moment-là.
Non, mais il fallait que ça arrive
oui,
comme ça.
Oui, c'est ça, parce que ça a été déterminant.
Pour permettre d'aider les gens aujourd'hui.
Bien, c'est ça. Puis ça a été déterminant aussi, peut-être, pour ce jour, ce fameux jour.
Pas peut-être, ça a été déterminant.
Déterminant pour la prise de décision au moment où tu as dû poser ton avion. Parce que, évidemment, tu avais déjà été confronté à une situation où tu as eu à prendre une décision et t'as été, évidemment, ta vie était menacée aussi. Alors, il a fallu que tu agisses rapidement et avec, comme disait Nathalie, avec un front de bœuf, parce que tu as confronté quand même des criminels qui étaient pour te passer dans les jours qui suivent.
Ils n'ont rien à perdre. Le gars qui pogne 25 ans au perpétuité, là, lui, tu es un gars de plus, tu es un gars de moins. Lui, ça ne change rien dans sa vie. Là. Il va rester en prison pareil.
Et comme tu dis, ton instinct, en fait, que tu as réussi à te transformer malgré toi. Tu comparais ton... Tu as dit, j'ai dû avoir un regard tellement fou qu'ils ont eu peur. Alors, tu t'es comparé un peu à
Shining.
À Shining.
Ah ouais. Quand il rentre dans la salle
Jack
de bain.
Jack Nicholson, c'est ça. Donc...
Ben, Jack Nicholson a déjà dit, d'ailleurs, que pour cette scène-là, il a touché la folie.
Ah oui.
Puis le problème, c'est de revenir de cette folie-là. Oui. Puis moi, je l'ai touché en prison. Je le sais que des fois, il m'arrive des situations moins graves, là. Mais je le sais que si c'était pour rempirer, je pourrais rentrer dans la folie. Puis ça, il faut faire attention, parce que la ligne n'est pas épaisse.
La ligne est mince. Ouais. On s'arrête, Robert, parce qu'on va... Je t'offre de rencontrer, enfin, il est à l'autre bout du fil, mais quelqu'un aussi qui sauve des vies à sa façon, c'est-à-dire qu'il veut sauver le monde, c'est-à-dire qu'il apporte du bonheur, du réconfort à des gens qui sont très loin de nous, souvent dans les camps de réfugiés, les orphelinats et tout. Alors, on va s'entretenir avec Guillaume Vermette, qui est un clown humanitaire. Alors, vous avez des points en commun, tu pourras intervenir si tu veux, là, pas de problème. Alors, on va faire une converse entre nous. Alors, on s'arrête le temps d'une pause ou quoi? Oui, mini. Puis on retrouve Guillaume. Alors oui, alors on accueille Guillaume Vermette. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
D'abord, êtes-vous bien ici à Montréal?
Non, en fait, je suis au Québec, mais je suis à Trois-Rivières.
Ah, d'accord, dans mon patelin. Donc, vous n'êtes pas à l'étranger. Alors, le lien, finalement, entre nos deux invités, c'est que vous êtes deux héros à votre façon, là. Exploit et engagement, bien sûr, c'est vraiment ce qui vous unit. Enfin, exploit, parce que, évidemment, on connaît Robert Piché, le commandant Piché, hein, puis je pense que je vais te tutoyer parce que j'ai commencé à tutoyer Robert. Alors, Guillaume, alors, toi aussi, finalement, tu connais, hein, Robert Piché?
Vaguement de réputation. Enchanté, commandant. Un plaisir.
Salut, ça va bien?
C'est ça, parce que tu connais son histoire, bien sûr.
Oui, mais je pense que j'ai vu un film il y a une autre époque, mais je t'avoue que je suis pas très... Je suis pas tant que ça.
En tout cas, c'est bon pour mon égo que tu me connaisses pas.
À tout le moins, l'épisode de l'avion là, qu'il a posé aux Açores. Et puis, c'est le film Entre ciel et terre, Piché entre ciel et terre de Sylvain Archambault, effectivement. Et puis, c'était Michel Côté qui faisait le rôle de Robert Piché. Et puis, c'était Maxime Le Flaguet, le fils de Michel Côté, qui interprétait Robert Piché jeune. Alors, dans ton cas, là, tu sauves des gens dans le sens que toi, ton objectif, c'est un peu de sauver le monde. Hein, t'aimerais ça, mais t'apportes en fait une raison de vivre ou encore tu apportes tout ce qui est bien-être, réconfort, du rire à des gens qui en ont bien besoin, qui ont besoin de bonheur et d'amour.
Ben, c'est pas faux qu'il y a une partie de moi qui a envie de sauver le monde. En même temps, c'est des mots que je trouve chargés. J'essaie de faire attention à utiliser parce que en 2024, c'est avec tout ce qu'on sait sur le néocolonialisme, sur notre passé, j'essaie de pas tomber dans le complexe d'homme blanc et d'avoir la prétention que je sauve des vies. Mais ce qui est certain, c'est que je trouve que le monde ne fait pas de maudit bon sens. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de violence sur notre planète. Puis oui, je parle des guerres, mais je parle aussi de la violence au quotidien, la manière dont les gens se parlent. Depuis que je suis tout petit, ça me dérange profondément. Et bien, la seule chose que je trouve qui fait du sens à faire de ma vie, c'est d'essayer de changer ce monde-là, parce qu'il me dérange profondément. Donc, c'est ma mission de vie, ouais, en quelque sorte, ma vocation depuis une vingtaine d'années, d'essayer de changer le monde, un sourire à la fois, faire des petites bouts de différence dans la vie de quelques personnes, puis ça se multiplie, ça se propage. Je ne vais sûrement jamais réussir à changer le monde, mais ça me fait du bien à moi avant tout. Ouais. Ça fait du sens, ça me rend heureux de faire preuve de bienveillance.
Parce que tu étais quelqu'un de un peu marginalisé étant jeune, mais enfin dans le sens que tu as été victime d'intimidation.
Oui, ben c'est marginalisé. Je reste un homme blanc qui...
Non, je comprends.
Mais, je suis très, très, très privilégié. Puis même d'ailleurs, je pourrais pas faire ce métier-là dans la vie si j'étais pas aussi privilégié, là, ce métier-là, bénévolement. Ben j'ai fait bénévolement pendant plusieurs années. Là. Maintenant, je suis rémunéré, mais peu importe. J'ai vécu, par contre, des problèmes de santé mentale. J'ai eu des tentatives de suicide, notamment. J'en parle à travers mon livre qui est récit d'un clown humanitaire, un sourire à la fois. Ça surprend les gens. Souvent, on lit un livre d'un clown en s'attendant que ce soit léger. Mais j'ai vécu beaucoup de détresse. J'ai vécu beaucoup de souffrance. Je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que c'est une grande force à sensibilité. Mais ça aussi, ses défis. Puis dans un monde qui peut être aussi violent, injuste, ça m'affecte souvent. Puis moi, j'essaie, comme tout le monde, je suppose, de trouver mon sens dans tout ça. Puis d'essayer de faire une différence positive dans ma façon, à travers le clown humanitaire, ben moi, ça me remplit de bonheur.
Ouais, Guillaume, c'est Nathalie.
Allô?
Hey, écoute, dis-moi, concrètement, là, clown humanitaire, oui, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu te promènes dans le monde, tu vas rencontrer des enfants. Est-ce que, oui, tu rencontres aussi des adultes? Tu vas dans les hôpitaux? C'est quoi ton mandat?
C'est très difficile d'expliquer très simplement, ouais, mais en gros, c'est que j'utilise le clown, qui est une forme de théâtre très peu connue, le cirque, mais aussi l'intervention, parce que j'étudie en psychologie. Je mélange ces connaissances-là, ces compétences-là pour essayer de contribuer au bien-être de populations marginalisées. Mm-hmm. Donc, ça s'est fait beaucoup dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les camps de réfugiés, et chaque milieu est différent avec ses enjeux, sa réalité. Chaque projet est différent. Des fois, ça va être un peu plus clown, des fois un peu plus cirque, des fois un peu plus intervention. Mais ce qu'il y a en commun entre tous mes projets, je dis même nos projets parce que j'ai fondé un organisme qui s'appelle la Caravane Philanthrope, mm-hmm, qui rassemble, mm-hmm, une quarantaine de tatas dans mon genre.
Mais oui, t'as fait des petits, finalement.
T'as fait des, ouais, petits. Mais ce qu'il y a en commun entre tous les projets, c'est qu'on utilise ces outils-là pour contribuer au bien-être des gens. Si je prends un exemple concret, par exemple, mm-hmm, on utilise le théâtre clownesque pour aller en CHSLD, faire ce qu'on appelle du clown thérapeute. Il y a eu plein de recherches scientifiques qui vont expliquer bien mieux que moi les bienfaits du clown thérapeutique, mais apparemment, c'est un outil extraordinaire que la science dit pour contribuer au bien-être de personnes qui ont des pertes neurocognitives, comme par exemple l'Alzheimer. Donc, on va chaque semaine en clown thérapeutique, en CHSLD, c'est pas un spectacle. Contrairement à ce qu'on peut penser du clown, l'objectif, c'est pas d'être drôle, c'est pas pour les enfants, puis un costume de clown, ça existe pas. Ça peut être drôle, ça peut être pour les enfants, puis ça peut mettre un costume. Ouais. Nous, on met des costumes d'époque, des années 30, 40, pour contribuer à rappeler des souvenirs aux gens CHSLD, à toucher leurs émotions.
C'est ça, c'est d'aller chercher le lien, finalement. C'est de oui, c'est la connexion avec les autres, avec les gens, que ce soit des enfants ou des gens âgés, c'est ça.
Un accélérateur fantastique de création de connexions humaines. Il n'y a aucun scénario quand on va à CHSLD, on cogne à la porte, on dit bonjour Madame Gélina, bonjour Monsieur Tremblay, on est content de vous voir. Le reste, ça vient d'eux, on rentre dans leur univers sans jugement, on est à leur service. S'ils ont besoin d'exprimer, par exemple, des émotions comme la colère ou la tristesse, on est là comme exutoire positif pour accueillir ces émotions-là. Mm-hmm. Donc, c'est très varié.
C'est ça.
C'est d'être concret brièvement, mais c'est très varié d'un projet à l'autre, d'un type de clown humanitaire ou thérapeutique à l'autre.
Et puis, il y a tout le volet humanitaire. Bon, tu étais quand même... tu es passé par l'Ukraine, hein? Tu es passé
tout
par la
fait.
Géorgie aussi, parce que maintenant, il y a eu des projets. D'abord, il faut le dire, là, tu es allé souvent, oui, en Russie. Ben, à l'époque, oui, c'était encore possible, là, mais, oui, en fait, tu as un ami quand même qui a une grande notoriété, Patch Adam, ce médecin-là, ce médecin clown aussi. Alors, ça,
ouais,
ça part un peu de son expérience, de son vécu. C'est un peu grâce à lui que tu fais ce que tu fais.
Ben, c'est un,
c'est un ami en même temps, je pense. Hein?
Un mentor, oui, c'est rendu un ami. J'ai passé par plein d'étapes. Je l'ai idolâtré parce que j'ai vu le film Patch Adam comme beaucoup de gens.
Ouais.
Je l'ai mis sur un piédestal. Je me rends compte, c'est un humain tout croche comme tout le monde, comme moi. Avec ses défauts et ses limites.
Oui, c'est ça.
En, remettre en doute l'homme même, parce que justement, il y a ses limites, puis il aurait toutes les qualités pour faire un excellent gourou de sec. Pour ensuite me rendre compte que c'est
il est très convaincant.
Humain. Il est très convaincant. C'est un humain exceptionnel et convaincu qui a énormément de bienveillance, puis qui m'a donné ma chance, qui m'a tellement appris, puis qui a ouvert la voie à des centaines, des milliers de clones humanitaires et thérapeutiques sur la planète. Puis j'ai eu le grand privilège de collaborer avec lui dans je ne sais combien de pays, dans combien de voyages humanitaires. Une chance qui était là pour moi. Il a signé la préface de mon livre aussi, d'ailleurs.
Ah. Il a 79 ans aujourd'hui. Il est amputé d'une jambe et il continue à travailler.
Oui. Je veux juste faire une parenthèse parce que tu as parlé du film. Je veux juste le mentionner pour les gens qui nous écoutent. Le film, donc, Patch Adams avec Robin Williams, un film de 1998. Allez écouter ce film-là. C'est tellement beau.
Ouais, c'est touchant.
C'est magnifique, ce film.
Je vais aller voir le film sur le commandant. Puis
ouais.
Oui, c'est ça. Tu t'en prendras.
Il y a un livre aussi. Hein? Le livre est vraiment bon. Le titre du livre, c'est quoi, Robert?
C'est
le livre.
20e anniversaire.
Oui, ouais, pour le 20e anniversaire.
C'est Robert Piché, finalement, le livre, là.
Oui.
Oui, mais tu connais ton...
Robert, pour le film, pour le livre. Pour,
moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait l'atterrissage. Hein.
C'est immense. Tu as sauvé des vies pour vrai.
Oui, mais j'aurais une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que les problèmes de santé mentale ou les problèmes d'intimidation que tu as connus quand tu étais jeune ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui puis la mission que tu t'es donnée? Parce que moi, je te pose cette question-là parce que moi, quand je parle de la prison, c'est toujours négatif, c'est toujours vu d'une manière péjorative. Mais si j'avais pas fait de la prison, je pense pas que j'aurais été capable d'atterrir cet avion-là 16 ans plus tard. Fait que tout fait partie de moi pour que j'ai réussi à sauver la vie de ces gens-là, tu vois. Toi, c'est-tu pareil dans ton sens? Est-ce que tu penses que c'est un peu pareil pour toi?
C'est une très bonne question. La vérité, c'est qu'on ne saura jamais vraiment, à moins d'inventer une machine à voyager dans le temps et changer mon passé. Mais ce que je suis certain, par contre, c'est que ça a une influence majeure. Moi, je pense que c'est tellement dans mon essence d'être clown mentor que ça serait arrivé anyway, peut-être moins vite ou d'une autre façon, mais j'ai une certaine sensibilité pour plusieurs des populations marginalisées qui rejoignent, particulièrement, j'ai envie de dire, les personnes en situation d'itinérance. Je travaille beaucoup en itinérance ces temps-ci, puis tu changes pas grand-chose à mon histoire, puis j'aurais fini en situation d'itinérance. Je l'ai été pendant 3 jours. J'ai l'air de rien, j'ai pas minimisé la réalité des gens en situation d'itinérance, mais j'ai vraiment eu cette volonté-là à un moment de grande détresse vers l'âge de 19 ans, et si j'avais pas un réseau, un tissu social, une famille, puis tous les privilèges que j'ai, ben je serais peut-être encore dans la vie aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que cette épreuve-là et bien d'autres épreuves me rend, je crois, plus sensible, plus conscient de certaines difficultés, de certains besoins de gens qu'on rencontre.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je te propose de rester avec nous parce qu'on doit s'arrêter, nous, pour un petit 2 minutes de pause. Et puis,
pas de problème.
Puis on se retrouve après. Là, on va finir de discuter ensemble. Alors, puis, c'est ça. Suite de la discussion après la pause. Mais merci. À tantôt, là.
Tous les jours, aime l'été.
Deuxième moitié d'heure, nous sommes avec Robert Piché, et oui, le commandant Piché. Et nous sommes aussi avec Guillaume Vermette, clown humanitaire, ce qui est intéressant. Rebonjour, Guillaume.
Allô?
Bon, hors d'onde, là, on continuait, nous, en studio, à parler d'itinérance, de maladie mentale. Et puis, justement, Robert Piché, lui, fait beaucoup de conférences, hein, tu sais. Rencontre, bien sûr, ce genre de clientèle, mais aussi il va beaucoup en prison. Et puis, c'est sûr que la maladie mentale est très présente. Alors, évidemment, c'est sûr que toi, tu as des défis aussi quand tu es devant ces gens-là aussi. C'est sûr que ça... Comment tu fais pour faire la connexion avec ces gens-là? Pas facile, hein?
À force de travailler avec des gens un peu partout sur la planète, plus d'une quarantaine de pays, puis même à l'intérieur de ces pays-là, dont le nôtre, où j'ai principalement travaillé, puis de côtoyer différentes populations marginalisées, que ce soit, je ne sais pas, des adultes qui vivent avec l'autisme, des personnes en situation d'itinérance, des aînés Alzheimer en CHSLD, des enfants à besoins particuliers, on dirait, plus ça va, plus j'ai l'impression que tout le monde est pareil. Que tout le monde est pareil. Quand on revient à la base, qu'on enlève notre masque social. Pour donner un exemple très concret, en clown humanitaire ou thérapeutique, on ne dit pas « salut, ça va ». ça c'est vide. Salut, ça va? Oui, toi, non. OK, bye. Mais oui, toi, OK, bye. C'est plus bonjour, je suis content de vous voir. On propose un clown, on est dans la vulnérabilité, l'authenticité, la simplicité, la légèreté, l'ouverture, la joie. D'appliquer ces principes-là rend le contact tellement facile avec tous les humains. En fait, il suffit juste de s'arrêter, de prendre le temps, de regarder dans les yeux, de ne pas avoir d'attente de performance. Mm-hmm. De juste être au lieu de faire, en regardant l'autre dans les yeux, en lui disant, par exemple, « je t'aime ». Puis la magie finit par opérer par elle-même. Donc, plus ça va, plus je vieillis comme humain, mais surtout comme clown humanitaire, plus je me rends compte que c'est si simple. Je ne suis pas en train d'apprendre à mieux faire, je suis en train de désapprendre.
Ouais, c'est ça.
Pour être plus. Les humains sont tous pareils et moi, j'invite tout le monde, par exemple, si vous croisez des personnes en situation d'itinérance, même si vous n'avez pas d'argent à donner, c'est correct juste de vous arrêter, de regarder la personne dans les yeux, de dire « Salut, je suis content de te voir. Comment tu t'appelles? Hein? Tu t'appelles Charles? Charles, t'es beau. Je t'aime. Je te souhaite une belle journée. » Puis juste ça, là, vous pourriez être surpris l'impact que vous pouvez avoir dans la vie de quelqu'un, dans son bien-être. Puis des fois, des simples actions comme ça, je dis des fois, mais souvent, j'en ai une collection en carrière, des simples actions comme ça ont pu changer littéralement une vie.
Oui. Tu as tout à fait raison, parce que moi, quand je me promène sur la rue et je rencontre des itinérants, ils me reconnaissent.
Hey.
Ah, moi, je reviens pas. Tu sais, le gars, il vit dans la rue. Il a pas un poste de télé, il a pas un poste de radio, il a pas un téléphone, il lit pas les journaux. Comment ça qu'il me connaît à moi? Où est-ce qu'il a entendu parler de moi? Tu comprends? Puis ça fait 23 ans que c'est arrivé. Puis encore aujourd'hui, là, je peux rencontrer 3 itinérants en ligne sur la rue Sainte-Catherine. Puis ils me regardent, puis je fais ce que tu viens de dire, j'ose un peu avec eux. Ils sont tout contents de m'avoir rencontré, puis de m'avoir reconnu. Tu comprends? C'est bizarre
ben
quand
oui.
même. Ouais. J'ai fait leur journée quand je leur parle. Tu sais,
c'est
super
chouette.
Mais c'est des personnes qui côtoient beaucoup de méfiance et de jugement.
Ouais, effectivement.
Ça, quand on prend le temps de créer un lien positif avec eux, puis c'est des personnes qui, pour plein de bonnes raisons, très souvent, ont perdu confiance en la société, ont perdu confiance au système et se sentent exclus.
Ah, mais des fois, c'est des circonstances de la vie. C'est qu'on sent la vie qui t'amène. Là, moi, j'ai passé à 2 cheveux d'être itinérant, puis les gens peuvent pas s'imaginer que le commandant Pichet a passé à 2 cheveux d'être itinérant. Mais si j'avais pas eu ma mère, puis comme tu disais tantôt, le tissu familial, je pense pas que je m'en serais sorti, tu vois. Quand tu sors de prison, t'as plus une scène de personne. Mais oubliez pas, c'est dans les années 80, là. T'avais pas les programmes de réhabilitation que t'as aujourd'hui, l'offre du gouvernement. J'avais rien, je suis arrivé ici, là, tout nu, avec pas une scène, pas de job, pas rien. Tu te ramasses, faut que tu travailles. Demain matin, faut que tu payes ta pinte de lait, puis ton corps de pain, puis tu peux pas rester chez ta mère pendant 10 ans de temps, tu sais, surtout à l'âge de 30 ans.
C'est sûr.
Bien, il paraît qu'on est tous à 2 événements, 2 traumatismes,
moi, j'y crois à ça,
2 drames de notre vie de se ramasser en situation d'itinérance, que ça apparaît à n'importe qui. Alors, moi, j'ai envie de te dire merci, M. Pichet, commandant, de prendre le temps de vous arrêter puis de regarder les personnes en situation d'itinérance dans les yeux puis de les saluer comme ça.
Ah, j'ai comme pas le choix, ils me sautent dessus.
Mais en fait, vous disiez, là, ben, c'est-à-dire, tu disais, Guillaume, aussi que on pensait qu'avec le temps, on peut se faire une carapace, mais finalement, c'est un peu le contraire qui se passe dans ta vie, enfin, autour de toi. Tu es de plus en plus ému par rapport aux gens que tu rencontres.
C'est compliqué. C'est un chemin émotif qui n'arrête pas d'évoluer puis qui est très organique et changeant. Mais il y a une part de moi qui est moins sous le choc parce que c'est plus la nouveauté. Je suis déjà allé dans des camps de réfugiés, dans des proches des pays qui a la guerre. J'ai déjà vu plein des drames humains dans lesquels on évolue. Fait que la première fois, c'est un plus grand choc habituellement. Donc, je m'habitue dans un sens, mais je m'habitue pas parce que ça me choque de plus en plus. Parce que je comprends de plus en plus le non-sens, les injustices derrière. Donc, ça me demande plus de travail de lâcher prise.
Oui, je vais poser la même question à Robert. Robert, toi, est-ce que avec le temps, je veux dire, les gens que tu rencontres, des fois, c'est plus difficile, évidemment. Il y a des gens qu'on ne va pas réussir à rejoindre, finalement, et puis qu'on va perdre de façon de parler.
Des fois, moi, je suis très actif. Dans les associations anonymes, puis des fois, je fais un partage, je parlais, mettons, à 200 alcooliques, puis il y en a qui arrivent, puis ça brosse. Puis ils se mettent à parler en arrière. Puis tout le monde le regarde, puis ils font des gros yeux. Moi, je l'invite en avant à venir parler avec moi. Le gars, est-tu surpris? Il vient s'asseoir à côté de moi. Puis je dis, qu'est-ce que t'as à dire? Puis là, j'arrête mon partage. Puis là, c'est lui qui se met à parler. Puis il est tout content d'avoir pu parler parce que jamais personne n'a pris le temps d'arrêter de lui dire comment tu vas. C'est pour ça qu'il continue à prendre un verre, mais il veut accrocher quelque chose quand même parce qu'il vient dans le meeting quand même.
Ouais. Tu vois, mm-hmm. Absolument. En terminant, là, Guillaume, j'aimerais ça que... Parce que tu as connu aussi la peur, tu sais, comme le commandant Piché, tu as connu la peur. Tu t'es retrouvé dans une situation, dans une espèce de camp de réfugiés. Je pense que c'était en Grèce. Est-ce que c'était pas un camp de réfugiés syrien?
Je ne sais pas encore quelle des.
Ah, ben non, mais c'est-à-dire que. Non, mais c'était. Tu avais donné un spectacle, tu commençais ton spectacle, tout allait bien.
Oui.
Tu étais avec des jeunes enfants, et puis les enfants étaient ébahis.
C'est ça?
Oui, puis là, les coups de feu, oui. Raconte-nous.
Oui, cette histoire-là que tu me parles, je pense que c'est celle que je pense a eu lieu en 2016 dans un camp de réfugiés qui était principalement syrien, mais il venait d'un peu partout. C'est un camp de réfugiés, un des nombreux camps qu'il y avait à cette époque-là, cet endroit-là, mais celui-là avec 15 000 personnes. Puis longue histoire courte, pendant un camp, un spectacle, on a été interrompu par des coups de feu. Puis on a dû s'enfuir. On a un code dans ce temps-là, notre gang, on dit Chaplin, qui est comme Charlie Chaplin, mais c'est un mot qui veut dire « pose pas de questions, ramasse tout ce que tu peux, on évacue pour aller en sécurité ». On se retrouve en sécurité quelques minutes plus tard, toute notre gang de clowns, je me rappelle, j'avais peur, je shakais, je braillais, je suais. Puis ben, on se rend compte pas longtemps après que tous les enfants nous avaient suivis. Les 200 enfants qui étaient au spectacle. Puis pendant que nous, on avait tellement peur qu'il y en a qui pissaient littéralement dans leur culotte, ben les enfants, eux, sautaient de joie puis attendaient juste la suite.
Oh, nous autres, c'est leur quotidien. Ça fait que c'est sûr qu'à un moment donné...
Oui, c'est incroyable. Enfin, alors évidemment, tu vis avec des dons parce que tu vis dans la simplicité volontaire, il faut bien le dire. Là. Mais quand même, est-ce qu'il y a moyen de... Bon, on va sur ton site Internet...
Oui, ben en fait, maintenant, je suis rémunéré, je suis bénévole à temps plein, même si je fais beaucoup de bénévolat, j'ai des salaires symboliques dans toutes sortes de projets, mais la caravane philanthrope, notre gang de 40 artistes qui est impliquée dans plein de projets, a besoin de dons pour fonctionner, sinon nos projets arrêtent. Il faut aller sur caravanephilanthrope.com ou encore sur guillaumevermette.com. Les deux places sont bonnes pour donner à nos projets humanitaires. Puis mon livre que j'ai parlé de quelques fois, le récit d'un clown humanitaire, un sourire à la fois, 100% des profits vont au projet humanitaire. Il n'y a pas une scène qui revient à moi. Voilà, maison d'édition. Vous pouvez regarder ça. Voyons, un sourire à la fois réussi de clown humanitaire aux éditions La Galère.
Parfait.
On va l'acheter, Guillaume.
Ouais. Est-ce que tu as toujours une bière à ton effigie?
Oui.
La pêcheresse?
T'es au courant? J'ai aussi
c'est la microbrasserie La Pêcheresse qui a fait une bière pour toi.
C'est vrai, parce que mon clown s'appelle Yahoo depuis de nombreuses années, depuis à peu près 20 ans que je fais du clown. Puis, ben, ça s'appelle Monsieur Yahoo, la bière, qui est une merveilleuse New England IPA sour.
au goût de poire et gingembre.
Au goût de poire et 50 cents par bière reviennent à nos projets humanitaires.
Merveilleux.
Merci à la microbrasserie La Pêcheresse.
C'est parfait. Guillaume Vermette, ça a été un plaisir de t'accueillir et continue ce magnifique travail avec toute ta quarantaine de clowns. C'est vraiment assez incroyable comme travail.
Merci, merci Guillaume.
Au revoir Guillaume, au plaisir de se rencontrer en personne.
Merci commandant, on ira se prendre une bière.
C'est ça.
Pas sûr.
Ah, là, il peut
sans alcool. Sans alcool.
Pêcheresse.
Non pétillante.
Ouais.
C'est ça.
Bye.
D'accord.
Bye bye. Bye. Écoute, on était en train de danser, nous, là. Ah, alors ça rappelle des beaux souvenirs.
Ben, je connais bien Mathieu, puis j'avais déjà parlé de ce groupe,
les
Mash Macan, des années 70. Ils ont été un groupe très, très populaire. Puis ils sont perdus un peu dans la consommation. Ça, ils ont fait deux, trois gros titres, dont celui-là, ce titre-là qu'ils viennent de mettre. Là,
oui, oui.
As the Year Go By.
Et By the Year Goes By. C'était mon premier show rock quand j'avais 15 ans à Rimouski. dans le bas du fleuve.
C'est des souvenirs, ça. Et de, ouais, en tout cas, ouais. la fille qui t'accompagnait devait être cute. Ouais, ouais,
ouais. Mais justement,
t'es
Guillaume...
T'es moins écoute à la fin, mais...
mais Guillaume, tantôt, justement, il disait, on va aller prendre une bière. Toi, tu bois plus, Robert, non. Mais t'as bu longtemps.
Ouais, j'ai bu combien 30 de temps?
Ans. 30 ans?
Ouais.
Donc, OK, de quel âge à quel âge? T'as commencé à
ben,
boire
non,
de quel...
17-18 ans, là. Ouais. J'étais pas trop sérieux. Allez, okay. Jusqu'à quand j'ai pris ma... Quand j'ai fait ma thérapie, à 50 ans.
Okay. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que tu n'as jamais pensé que tu avais un problème.
Non, pendant 30 ans de temps de consommation, j'ai jamais pensé que j'étais alcoolique. Pourtant, j'avais des alcooliques autour de moi. J'avais du monde qui suivait des meetings, des associations anonymes, mais jamais que j'ai pensé que j'en étais un. C'est pour te dire.
Comment hein? Se fait-il? Que
mais c'est parce que c'est pas la consommation. Pas la consommation, c'est à 15 % du problème.
Okay.
C'est le comportement qui est 85 % du problème. Tu peux être un alcoolique sans consommer. C'est un comportement d'alcoolique. Tu
vois? Je comprends. En fait, c'est un problème de dépendance, quel qu'il soit.
Mais pas nécessairement. C'est que.
C'est toi, t'aimais le party.
La vie, elle n'est pas assez vite.
Oui, t'aimais le party.
Mais c'est parce que moi, très jeune, j'ai compris que tu viens au monde, tu vis puis tu meurs. Okay. Très jeune, j'ai eu cette pensée philosophique-là de dire ben, que ça me donne de vivre. Hein? Donc, soumain de faire le party entre les deux. Mais encore là, une fois, je me suis pas assis au bout de mon lit et je me suis fait le party. C'est venu par le fait même. Puis quand tu regardes ma personnalité rendue à 71 ans que je suis, tu t'aperçois que tout est rattaché. Tu sais, il n'y a pas d'isolement dans ma vie. Moi, c'est tout une suite. Mais, mm-hmm. mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une suite. Mais c'est le développement de ma personnalité et le genre de gars que je suis aujourd'hui a fait que fallait que je sois un alcoolique à l'âge de 17-18 ans. À devenir, que je savais pas que j'allais devenir. Fallait que j'étais un gars qui aime la fête pour atterrir cet avion-là. Tu vois, j'ai tout fait la vie à ma manière, comme ma mère a fait mm-hmm. à sa manière.
C'est ça.
Puis j'ai jamais eu besoin des autres. On a toujours besoin des autres dans la vie, mais j'ai toujours été un solitaire. Pas un gars exclu du clan, mais un solitaire. Tu vois?
Tu sais, tantôt, tu me disais tu es un ex-commandant. Et pourtant, quand je t'entends, des fois, je suis allé déjà dans un partage et tout ça, et tu dis que tu es un alcoolique.
Ouais.
Tu vas toujours rester alcoolique?
Oui, bien, mais la dépendance est venue par après.
Ouais.
Mon comportement a fait que j'ai perdu le contrôle sur la substance. C'est pour mm-hmm. ça que la première étape des associations anonymes, c'est d'avouer que tu as un problème avec ta substance. Mais moi, je ne l'avouais pas que j'avais un problème avec ma substance, parce que je ne pensais pas que la substance était un problème.
Mm-hmm.
Mais quand tu commences à patauger dans ce milieu-là, tu t'aperçois que ton comportement t'a amené à perdre le contrôle sur la substance.
Et toi, tu dis clairement, j'ai une maladie, je suis alcoolique.
Ah oui, c'est une maladie mentale.
Encore à ce jour, même ça fait combien d'années que tu ne bois plus? Là?
Ça fait 23 ans. Ouais.
Ça fait 23 ans. Ouais, ouais. Et tu continues de dire, je suis alcoolique.
J'ai encore mes sautes d'humeur, mes sautes de comportement.
Ton fou, comment tu l'appelais?
Le fou dans ma tête.
Le fou dans ta tête,
des fois, il parle le fou, j'ai de la misère à le contrôler. C'est une manière de percevoir la vie. Les gens, avant que tu comprennes que c'est ça ton problème, c'est dur à dire, ben j'ai ce problème-là, tu as l'avoué toi-même, parce que c'est un cheminement que faut que quelqu'un d'autre te le dise. Le thérapeute qui m'a aidé en thérapie, lui, c'est un ancien héroïnomane. C'est sûr que lui connaît le cheminement d'un gars qui perd le contrôle de son comportement. C'est le comportement qui t'amène à perdre le contrôle de ta substance.
Oui, ouais, mais ce besoin que tu avais d'intensité, de vivre là, pleinement, là,
ouais.
C'est sûr que souvent, les gens qui ont des dépendances, soit à l'alcool, aux drogues, ben, il y a aussi ce besoin de vivre, de cette adrénaline.
Tout le monde est la base est un peu la même,
oui.
Juste une dépendance affective.
Ouais.
Juste que beaucoup de personnes âgées, quand ils commencent à voir que leur vie s'achève, ils vont tomber sur les Prozac, tu vois, puis ils prennent une dépendance au Prozac. Tu vois, c'est parce que ça leur donne un goût de vivre qui est en train de perdre en vieillissant.
Mm-hmm.
Tu vois, c'est ce goût de vivre-là que... C'est pour ça que l'héroïnomane, la héroïne est très dangereuse, parce que juste un fixe t'amène au nirvana, puis tu veux plus revenir de là. C'est contrairement au pot ou à la cocaïne qui te donne le même feeling, mais à une intensité beaucoup moindre qui fait que tu perds pas. Tu peux perdre le contrôle, mais dans le fond, que tu ne deviens pas un clochard pour autant. Tu sais.
Ouais. La question que je me pose, c'est que bon, tu as arrêté un jour, il y a 23 ans, tu as arrêté pour avoir déjà parlé à quelqu'un dans le domaine qui était chanteur, qui a déjà dit « J'aurai plus jamais le même feeling, je ne vivrai plus jamais ça, monter sur une scène avec la coke et tout ça. » Alors, toi, dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà dit « Chris, ma vie va être plate sans ça.
Ouais, »
T'es-tu déjà posé la question?
La vie est plate. Pour un alcoolique toxicomane qui est dans l'établissement, la vie tombe plate du jour au lendemain.
Puis tu sais que tu vas affronter ça jusqu'à la fin de tes jours.
C'est parce que toute ton émotion, tu l'as exagérée avec la consommation.
Ouais.
Je vais te donner un exemple. Quand je vais dans le sud avec ma femme, Ma femme est professeure de yoga, elle zen au bout, ça ne boit pas, ça ne fume pas, ça ne sac pas. Puis elle a regardé le soleil, le coucher de soleil, la capote.
Mm-hmm.
Elle m'a dit, ah, mon chéri, il est beau le coucher de soleil. Il est bien beau, mais donne-moi un joint, puis une bière, puis une bouteille de vin.
il va être encore plus beau.
Mais c'est parce que moi, je le trouvais beau dans ces temps-là. C'est comme aujourd'hui, je tomberais célibataire, mettons, aujourd'hui. Là. Je sais pas comment je ferais pour me retrouver un autre conjoint. Tu vois, parce que moi, j'ai creusé 30 ans de temps sur la brosse. Ça faisait partie, comme j'ai toujours dit, à 17 ans, c'était un joint, une bible, une femme. C'était un package deal. C'est pas une affaire séparée.
C'est tout ensemble.
T'sais, j'ai un produit des années 70, je continue de le dire. Puis celle-là, hein, c'est maintenant qu'on fonctionnait dans le temps.
À tous les jours, tu remets ça en question. C'est-à-dire, ma vie va être ça dorénavant.
Puis j'essaie de me trouver des sites d'intérêt que je connaissais pas avant. Comme là, je me suis mis au golf. Je me donne une idée d'essayer d'être pas pire au golf. Je joue au pickleball. J'essaie d'être pas pire au pickleball. Je fais du sport. J'ai toujours fait du sport.
Mm-hmm.
Mais si je fais pas ça, je peux pas rester assis chez nous à rien faire pour regarder la TV.
Non, c'est sûr.
Tu sais, là, le genre de gars que je suis m'a déprimé deux fois plus vite que si... Mm. Bon, là, ça va peut-être me faire rechuter.
Bon, là, on va parler, bien sûr, de ce que tu fais concrètement pour les gens, pour les autres. Alors, tu as parti de ta fondation, Fondation Robert Pichet. Tu fais des rencontres régulièrement. Arrive-t-il des situations où les gens, ils veulent pas être aidés?
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est fréquent.
C'est pas qu'ils veulent pas être aidés. Leur entourage leur dit qu'ils ont besoin d'aide, mais lui, il veut pas être aidé parce qu'il sait pas qu'il y a un problème comme moi, je savais pas j'avais un problème. Parce que lui, sa consommation... Il vit avec ça, puis il a de besoin, puis il pense pas. Tu sais, c'est comme le type qui fume une cigarette, puis il prend un café. Il dit, moi, quand je me lève le matin, ça me prend un café, puis quand je prends un café, ça me prend une cigarette. Mais s'il décide d'arrêter de fumer, il faudrait qu'il arrête de prendre un café. Parce que s'il prend un café, il va toujours avoir dans l'idée, tu sais, s'il a pris du café et de la cigarette pendant 30 ans.
C'est des associations.
C'est la même affaire pour un type qui ne veut pas être aidé. Il ne sait même pas qu'il a besoin d'aide. J'ai fait une conférence dans une maison thérapie la semaine dernière, puis il était une quinzaine devant moi. Puis j'en avais spoté trois, là, qu'eux autres, il n'y a pas d'affaires là. Puis là, je leur disais, pour eux autres, j'ai parlé. J'ai dit, t'es ici, c'est parce que t'es dans la marde. Mm-hmm. Tu n'es pas venu ici par vertu. Tu n'as pas décidé, toi. Moi, je vais faire une petite thérapie au centre thérapeutique avec l'alcoolique toxicomane. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis ici. Puis je vois bien que c'est pas toi qui t'as amené ici. Puis là, t'es réfractaire à ça parce que tu sais que si tu embarques dans ce milieu-là, tu ne pourras plus consommer. Puis ton fou dans ta tête ne veut pas arrêter de consommer. Mais il va falloir que tu comprennes que si tu es dans la marde, tu peux sortir, faire ta thérapie, tout le monde va être content. Puis tu retourneras dans ta marde après. Puis tu vas t'apercevoir que la marde va être encore plus grosse parce que là, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pas y retourner. Mm-hmm. Fait que là, tu vas déprimer deux fois plus, tu vas consommer deux fois plus pour t'enlever la honte tout en sachant que ça te donne de revenir dans l'actif, comme on dit, à recommencer à consommer.
Oui. Évidemment, là aussi, vous avez travaillé ensemble sur les fameux balados. Ouais. Je pense que les balados qui vont être diffusés...
À partir du 7 septembre.
C'est ça, au mois de septembre. Alors, c'est tout ça. Ce sera les... En fait, vous allez aborder tous ces sujets-là.
Bien, en fait, le balado, c'est... Bien, Robert va pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais c'est 12 épisodes où Robert et son co-animateur, notre ami Eric, qui écoute probablement en ce moment, alors, il parle de la méthode des 12 étapes.
Ouais, la seule manière de te sortir de ton problème d'addiction, de consommation, c'est de suivre les 12 étapes qui ont été mises par la méthode des alcooliques anonymes, qui a été faite par les deux membres fondateurs, qui a été créée en 1935. Ça a sauvé des millions de personnes. Puis moi, je le sais que c'est la seule méthode que tu peux t'en sortir. Tout le monde qui va parler contre cette méthode-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le désir sincère d'arrêter de consommer.
Parce que
tu ouvres toujours une petite porte dans ta tête. Je vais peut-être bien être capable de reconsommer d'une manière contrôlable dans le futur, mais c'est impossible.
Et puis, dis donc, Robert, parce que justement, dans ces étapes-là, il y a toujours l'aspect un petit peu plus spirituel, une dimension spirituelle, religieuse, un peu à la limite. Là, je veux dire, on parle de Dieu. Et c'est sûr qu'en 2024, on est encore surpris. On comprend que les fondateurs...
Mais c'est là que ça choque un petit peu.
Les fondateurs avaient ce... c'était une autre époque.
Dans les années 30, Dieu était bien vu.
Mais aujourd'hui...
Il était associé à la religion catholique. Ouais. Maintenant, c'est plus la religion catholique. Mm. C'est plutôt la spiritualité. Ils ont changé les termes. Fasse confiance au Dieu de la manière que tu le conçois. Moi, c'est mon mentor. Mon mentor est décédé en 2017. J'ai cheminé 15 ans avec lui. C'est lui qui m'a montré le mode de vie et tout. Et c'est lui, ma puissance supérieure, Ben, mon Dieu, si on peut dire, c'est lui. Quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, c'est à lui que je parle. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire à tout le monde ou que les gens ne sont peut-être pas intéressés à t'écouter ce que tu es en train de dire. Fait que, le temps de trouver la bonne personne à qui en parler et que tu vas avoir une interaction, des fois, ton idée est passée. Fait que moi, j'en parle à ma puissance supérieure directement. Puis quand tu commences à faire les étapes, il y a une chronologie des étapes. Tu avoues que tu as un problème de substance, que tu as perdu le contrôle de ta vie, que ça te prendrait quelque chose de plus grand que toi pour t'en donner raison. Puis là, tu arrives à la troisième qui dit, tu confies ta volonté, ta vie aux soins de Dieu tel que tu le conçois. C'est là que ça bloque. Parce que l'alcoolique toxicomane qui ne veut pas arrêter, tu lui parles de Dieu, elle va dire, c'est une secte, ça. Ça veut rien. Tu sais? Mais c'est parce qu'il ne veut pas comprendre. Mais lui expliquer, c'est pas facile de l'expliquer. Mmh. C'est ça qui est le problème.
Pour avoir travaillé ces 12 épisodes-là avec Robert, moi-même, au début, je me disais Dieu, Dieu, Dieu dans le décor tout le temps. Mais alors, c'est Robert qui a pris la peine de m'expliquer. Mais Dieu ne veut pas, ça veut pas dire Dieu. C'est ça. Être supérieur. Ton être supérieur, c'est qui? Bien, un ami qui m'a déjà dit, si tu considères que cette personne-là peut avoir un impact sur ta vie ou tout ça, moi, mon être supérieur, c'est mon chum qui est décédé.
C'est ça.
Fait que c'est faut comme enlever le mot Dieu dans notre esprit.
Ouais.
Puis parce
surtout pour un alcoolique toxicomane, ça lui donne l'excuse parfaite à son fou de dire, hein, tu vois, je consomme.
Ouais.
Mais il y a une chronologie, tu vois, c'est dans les étapes, puis il faut que tu les suives, les étapes, puis il faut que tu les fais. Puis le problème dans les associations anonymes, c'est pas tout le monde qui fait les 12 étapes. Il y en a plusieurs qui arrêtent de consommer, puis ils font du meeting, mais ils n'embarquent pas dans le programme, tu vois. Mm-hmm. Quand tu vas aux États-Unis faire un meeting, là, la première chose qu'ils te demandent en rentrant, « Why are you on your program? »
Okay.
Un gars que tu connais pas, puis il te connaît pas, il va te demander tout de suite en parlant, il va te donner la main, « Merci d'être venu au meeting, mais tu es rendu où dans ton programme? » Puis là, tu es obligé de dire, bien, je suis rendu à ma deuxième étape, je suis rendu à la huitième étape, je suis rendu, tu sais, tu n'as pas le choix. Parce qu'ici, on ne le demande pas, ça. Fait que le gars, il s'assoit, il écoute, puis il fait le meeting du côté social des associations anonymes, les meetings. Fait qu'on appelle ça faire du meeting de chaise. Tu ne consommes pas, mais tu ne changes pas ton comportement pour autant. Fait que tu es toujours le consommateur avec ton problème de comportement, mais tu ne consommes pas. C'est pour ça que tu peux être un alcoolique sans consommer.
Je comprends. Est-ce que tu vas... Combien de temps tu vas continuer à faire ça? Est-ce que, parce que quand même, là, on parlera de ce que de ta vie d'aujourd'hui, de maintenant, de ce que tu fais cet été.
Bien, ça fait partie de ma vie aujourd'hui.
Ça fait partie de ta vie et tu vas continuer à faire ça.
Oui, parce que les gens ont compris que le vol 236 m'a donné une certaine crédibilité face à ces gens-là qui ont des problèmes de consommation. Parce que j'ai le problème, puis je l'ai contrôlé. Puis je suis toujours en cheminement 24 heures à la fois. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Mais il reste que quand je leur parle en avant, puis je leur explique ma maladie, je leur explique comment moi je vois ça, qu'est-ce que je pense que je fais aujourd'hui que j'ai réussi à m'en sortir. Mais il y a une certaine crédibilité parce que justement, en parlant en début d'émission, que j'ai sauvé 306 personnes, ça me donne la crédibilité. Mais ça, la crédibilité, il faut que tu dises la vérité.
Mm-hmm.
Tu ne peux pas mentir. Tu vois, je suis obligé d'être vrai devant les gens, puis j'ai toujours été une personne vraie. Fait que je leur dis, il y a du monde qui sort des fois. Ils ne sont pas capables d'écouter ce que j'ai à dire parce que c'est trop vrai ce que je dis. Tu vois? Parce que, puis ils se disent, le commandant était capable d'arrêter. Ben, moi aussi, je serais capable d'arrêter.
C'est ça,
tu vois?
Pourquoi pas moi?
Puis ils s'aperçoivent que je suis comme eux. Puis je leur dis, vous êtes 200, là. On est 200 malades mentaux ici. On est tous des alcooliques. Puis il n'y a pas un qui peut se lever et dire, hey, pichez ce que tu dis, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que je parle de la maladie. Tu vois?
C'est... Ouais. Alors donc, tu te sens une responsabilité, au fond.
Non, pas responsable. Le truc là-dedans, c'est quand tu parles à des alcooliques toxicomanes, que tu essaies de livrer le message qui a été mis par les deux membres fondateurs, ça te fait du bien à toi autant de le dire qu'eux de l'écouter. Puis je leur dis des fois, à la fin du partage, je leur dis, je suis peut-être égoïste, là, mais moi, je ne sais pas si vous avez aimé ce que je vous ai conté, mais moi, ça me fait grandement du bien de vous le dire. Ouais.
C'est ça.
Je veux juste rappeler de notre balado, les 12 épisodes. On parle de dépendance, on parle
d'alcoolisme. Une étape par... Il y a 12 étapes, on parle d'une étape par balado.
C'est ça. Donc, chaque étape, on a 12 étapes. Mais je veux mentionner que ce n'est pas nécessairement juste des problèmes d'alcoolisme.
Non.
On parle de dépendance en général. Enfin, quelqu'un qui est dépendant, je dis n'importe quoi, à la nourriture, à la religion, au jeu, peut écouter ce balado-là.
Même ma fille est venue faire un balado avec nous, puis... Elle a décidé d'arrêter de consommer d'elle-même. Elle nous parlait son cheminement, que même elle a eu soif malgré qu'elle ne pense pas qu'elle a le problème. Mais elle s'est dit, m'arrêter un an. Pour le septième mois, elle a eu soif. Ben, je comprends pas que j'ai eu soif quand j'ai pas le problème. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tu as enlevé ce petit côté-là de ta vie qui est tellement omniprésent, là, la consommation aujourd'hui.
L'alcool, on boit pour toutes sortes de raisons. On boit parce qu'on a un événement, on a un cocktail, on a un brunch,
on a un pique-nique. Non, puis tu te ramasses avec un verre en main, puis tu ne l'as même pas commandé, puis tu vois, c'est...
Non, je sais bien. Mais enfin, c'est vraiment très intéressant d'avoir partagé cette heure avec toi, Robert, et puis bien sûr aussi d'avoir eu ce lien aussi avec notre clown humanitaire, Guillaume Vermette. En tout cas, chose certaine, il y a ces balados qui s'en viennent, donc...
À partir du 7 septembre, voilà. À aller sur le site Internet de Canal M. Puis vous allez voir, c'est annoncé le titre, Robert, du balado, qui est...
En cas de la sobriété avec Robert Piché.
Et voilà. Ouais. Et puis, tout comme notre clown, je pense que l'idée, c'est que quand on donne comme ça aux autres, ça nous apporte autant. C'est ce que tu viens de dire.
C'est ça, ouais. Ouais.
Alors, c'est vraiment... C'est un message important. Donc, les gens... Je pense que ça peut être... D'ailleurs, pour des gens qui ont le même problème que le tien, ben, peut-être qu'éventuellement, ça peut être un exemple, justement, d'aller donner aux autres. Mmh. Je pense que c'est
juste faire du bénévolat.
C'est ça qui peut, peut surtout les sauver, finalement, parce qu'ils vont recevoir aussi plein d'énergie, plein de belles choses. C'est tout le temps qu'on a, Robert. On a à peine 30 secondes. Trop vite. Merci à toi. Merci d'être venu en studio. Et puis, merci Nathalie. Merci tout le monde.
Merci de l'invitation.
Et puis, ben, écoutez, on se retrouve. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine, une autre semaine devant nous avec de bons invités et puis plein de sujets intéressants. Ouais. Merci et puis bonne fin de semaine
merci
à tous.
Merci Robert.
Bonjour,
bon
merci.
Après-midi.